I'm Peter Jones. Lifting business performance is critical in today's uncertain times. But how do you keep up with changing regulations and rising demands? How do you break free from manual processes to raise productivity? The answer is technology that elevates performance and comes with industry-leading support. Over 1 million UK businesses, including my investment group, trust Sage to manage their finances, operations and people.
Elevate your business today with our free performance review. Visit sage.com/perform.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Gilbert Bribois.
Jérôme Bretagne est là en direct de son salon. Daniel Riolo en direct de sa salle à manger. Oui, le télétravail s'installe dans l'after pendant quelques jours. Messieurs, l'Américouette est ici avec moi en studio. Pas mal de réactions. Hugo sur Direct Studio qui me dit: quel match de Lyon! Je pense que Noël doit appeler pour que Daniel fasse son mea culpa. Oui, bah, il est 23h, 22h03. La deuxième mi-temps vient de reprendre virtuellement, vous l'avez bien compris.
Ouais, et Aouar vient de rater la balle de match quand même.
Ah, déjà?
Ah oui, juste à la reprise, à 46e. Là.
Et j'ai Lucien qui me dit: franchement, avec Daniel et Jérôme chez eux, c'est quand même moins le bordel à l'antenne, c'est pas mal, nous dit...
Mais c'est vrai que Daniel est plus raisonnable.
Ouais, mais en tout cas, non, je fantasmerai jamais sur le fait de pouvoir faire l'émission à la maison peinard. Je préfère être dans le studio. Là, j'ai vraiment l'impression d'être coupé de tout.
Heureux.
Alors, ah ouais, non, vraiment.
Les gars, avec cette réorganisation de calendrier, il faut qu'on prenne un petit peu l'avis de nos clubs, de nos clubs de Ligue 1. Et on est en direct avec le président d'Amiens, Bernard Joannin. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, bah, dites-nous d'abord, vos joueurs en ce moment, ils font quoi là, Bernard?
Bah, écoutez, tout le club, que ce soit les joueurs, que ce soit les services administratifs, que ce soit les éducateurs... on a mis tout le personnel au chômage partiel.
D'accord. Donc là, il n'y a pas de date de, il n'y a pas une date déjà fixée pour les joueurs pour revenir s'entraîner collectivement et tout. Rien encore de fixé là-dessus.
Non, parce que vous savez, celui qui commande, c'est le virus. Hein. Mmh.
Effectivement. Alors, vous avez entendu aujourd'hui là ce qui s'est passé à la Ligue. Est-ce que vous êtes satisfait par ce qui est prévu, donc absolument finir avant le 30 juin, mais surtout finir?
Ah ben bien sûr, de toute façon, l'équité sportive veut que tout se décide sur le terrain. C'est la priorité, donc il faut absolument que ce championnat aille au bout. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le virus qui va décider. Est-ce que nos joueurs vont être à capacité de reprendre l'entraînement? Est-ce que nos spectateurs, nos supporters vont pouvoir venir? C'est une totale inconnue pour tous.
Vos joueurs, ils sont tous restés à Amiens ou dans le coin?
Oui, oui, de toute façon, vous savez que l'interdiction de déplacement prévaut pour eux aussi. Hein.
D'accord, bon, c'est jamais avec les joueurs de foot. Hein. Il y en a qui peuvent prendre un petit jet pour aller au soleil. Ou
Ouais, à Amiens, c'est pas le cas.
Non, mais il y avait un beau soleil aujourd'hui à Amiens.
Ben voilà, c'est pas la peine d'aller prendre un avion. Restez à Amiens, on est bien. Dites-moi, vous êtes actuellement 19e. La proposition de Jean-Michel Aulas de geler, là, ça vous aurait bien arrangé?
Ben, écoutez, vous savez d'où je viens. J'étais, avant de mal tourner, de me lancer dans les affaires, j'étais professeur d'éducation physique, donc j'ai des valeurs que j'ai apprises en apprenant ce métier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout se décide sur le terrain. Et il y a une telle jouissance à gagner sur un terrain que je ne peux concevoir que celle-là.
Bon. Ça, c'est une très, très belle réaction. En plus, venant d'un président dont le club est pour l'instant relégué, ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais.
Merci.
Si je peux me permettre. Voilà.
Bon, vous lui avez dit à Jean-Michel Aulas
Attendez, non, mais Jean-Michel a fait tellement pour le football, etc. Après, il faut voir le contexte dans lequel les choses ont été dites. Vous savez, on est tous ensemble, tous unis en ce moment.
Ça n'empêche pas de dire des conneries, monsieur Joannin, si vous permettez. On peut toujours, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Jean-Michel Aulas, il y a toujours un préambule. On peut pas parce que tout ce qu'il a fait, machin. Ok, mais une fois qu'on évoque ce préambule, on a le droit aussi de dire la sortie est ratée, c'est une connerie, on n'est pas d'accord avec lui, c'était malvenu. De toute façon, lui-même a un petit peu rétro-pédalé, donc on a quand même le droit de le dire, n'est-ce pas?
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que on doit plus passer de temps actuellement à être unis et à se rassembler que plus à polémiquer. C'est, comme l'a dit le président, on est en guerre. On est en guerre contre un virus qu'il faut absolument battre. Et après, on va pouvoir reprendre notre petite joute du week-end.
Bon, donc vous attendez avec nous tous, évidemment, de savoir quand est-ce que ça va reprendre, Bernard Joualin. Chômage partiel, comment ça se passe d'ailleurs, je veux dire, administrativement, là, pour vous? On peut mettre des joueurs de foot professionnels en chômage partiel?
Ah oui, bien sûr. C'est les salariés comme les autres.
Et alors, si on va au-delà du 30 juin, vous êtes prêt, vous, à leur faire des avenants pour, je sais pas, s'il faut faire 15 jours de plus, ça posera pas de problème?
Écoutez, j'ai pas étudié ce problème-là. Je pense que si le confinement, s'arrête le 15 avril comme prévu, je pense que, mettons 15 jours de réathlétisation pour les joueurs, je pense que ça peut passer.
Vous avez évoqué, Bernard, tout à l'heure la situation sportive. Évidemment que vous avez tout intérêt, vous, Amiens, de poursuivre le championnat jusqu'au bout. L'équité sportive prévaut. On rappelle que, malheureusement pour vous, Amiens n'a plus gagné depuis le 18 décembre. C'est long. J'imagine aussi que, financièrement, vous avez l'obligation également, et vous espérez de tout cœur, que cette compétition aille à son terme, parce qu'on sait que les droits télé font que les clubs doivent fournir également un spectacle aux diffuseurs, et vous avez besoin de cet argent.
Ah oui, tout le monde. Je pense que les diffuseurs ont besoin, pour rassurer leurs abonnés qu'il y ait du spectacle jusqu'à la fin de ce championnat. Tous les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, la meilleure solution, c'est que le championnat reprenne ses droits de façon à ce que les dernières tranches des droits télé soient payées.
Et si la situation sanitaire le permet, bien évidemment.
Bien sûr.
Alors, attendez. Ça voudrait dire que si le championnat ne se termine pas, il y a une tranche de droits télé qui ne serait pas versée au club, là?
Ah ben, à partir du moment où le produit n'a pas existé, voilà. les télés seront en droit de dire, ben, exactement. Là, parce que tout le monde a souffert économiquement, les télés ont souffert économiquement, les clubs, peut-être encore plus, enfin je sais pas, donc il est normal, tu vois, t'as pas un mec qui va payer plus que les autres, ça paraît logique, Gilbert.
Vous nous confirmez ça, Bernard Joualin?
Écoutez, je pense que vous pouvez interroger les diffuseurs et vous répondre.
Bon, donc très bien. Donc, oui, en même temps, ils vont pas nous répondre parce qu'en général, sur ce genre de questions, ils répondent pas. Donc, on peut toujours essayer. Mais on a bien compris l'idée.
Non, mais prions tous pour que le championnat reprenne. Je pense que, y compris vous qui êtes de magnifiques commentateurs.
Ouais, surtout avez... moi.
C'est toujours intéressant quand même qu'il y ait quelque chose à commenter.
Bernard Joualin, merci en tout cas. Donc,
c'est toujours un plaisir.
On voit que vous êtes en face. Au revoir, à très bientôt. Donc voilà, le président Damien, c'est mine de rien. J'avais pas du tout envisagé ça, moi, cette possibilité qui est la dernière tranche des droits télé de la saison en cours.
Gilbert, c'est logique.
Il reste, mais c'est logique. Mais quand un président te le dit, tu vois, on n'en avait pas parlé, nous, par exemple, ces derniers jours.
Il reste 10 matchs, hein, c'est énorme. Il reste 10 journées de championnat. Donc autant de il y a quoi, il y a 3 matchs diffusés par un diffuseur,
donc là on est sur des droits télé à environ 700 millions d'euros. Donc si on faut imaginer enlever 30% quoi.
J'allais dire un quart au bas mot, oui, entre 25 et 30%. Plutôt autour de 25, ce qui est beaucoup.
Donc, c'est pour ça, parce que quand on dit entre 150 et 200 millions d'euros.
Parce que quand on dit, excuse-moi Julien, mais quand on dit depuis quelques jours maintenant, ça va être une catastrophe économique pour les clubs et tout, elle vient d'où d'après toi la catastrophe économique? Et principalement par rapport à ça.
Il y a plusieurs catastrophes économiques. Il y a la catastrophe économique, là on la touche du doigt celle-là, mais il y a aussi la catastrophe économique revenu stade.
Non mais revenu stade, c'est rien comparé au revenu des droits télé.
Oui, c'est moins. Mais
c'est pour ça, c'est pour ça qu'ils sont tous d'accord. C'est pour ça qu'ils sont tous d'accord pour reprendre et faire des huis clos. À la limite, le huis clos, c'est ce qui les soucie le moins finalement.
Oui, c'est sûr que le huis clos.
Et on peut comprendre si tu dois sauver dans une période comme ça où effectivement on est en cata économique de partout, tout ce que tu peux sauver, tu le sauves. Hein. Si tu peux remettre des œufs dans le panier, tu les mets.
Ça sauvera des emplois au sein des clubs.
Ah, en plus, absolument, Eric, tu fais bien de le dire.
Mais de toute façon, ils vont tout faire, tout est fait pour que ça se finisse. Alors après, je sais pas quand, mais là, même Gilbert, tu posais la question au président d'Amiens, dire ouais, mais si on dépasse le 30 juin. C'est quand même pas problématique de dépasser le 30 juin. Déjà, tu fais un avenant. Ça arrive dans tous les boulots. Ça peut arriver dans n'importe quel boulot. Je pense que les joueurs de foot, même si ça s'arrête, le contrat s'arrête le 30 juin, par rapport à ce qui se passe actuellement, s'ils doivent aller jusqu'à début août ou fin juillet, je pense que ça posera pas de soucis, quoi.
Moi, j'attends de voir ça. Parce que, excuse-moi, je te donne un cas. Je sais pas moi, un joueur d'Amiens, par exemple. Je sais pas qui est un mec bankable à Amiens. Mendoza. Ouais. Non, qui je peux te donner?
Kakuta. Donc il va dire j'arrête la saison le 30 juin.
Mais
parce
attends,
que j'ai plus de contrat.
Excuse-moi, mais si Kakuta il a une offre, par exemple, l'OM contacte Kakuta, elle lui dit non, tu es signé à partir du 1er juillet, il va faire quoi Kakuta?
Arrête de voir des raclures partout. L'OM va jamais faire un truc pareil. Personne va faire ça.
Au bout d'un moment. Mais vous êtes des naïfs ou quoi?
Mais c'est toi qui es naïf.
C'est toi qui vois le diable. C'est toi qui vois le diable partout.
Le football, on a dit avec comment il s'appelle. Appelé monsieur Corbier là.
Corbier, c'était avec Dorothée. Giron.
Bon, excuse-moi.
Dominique Courdier.
Ça ressemble pas du tout en plus.
Mais on s'en fout, c'est pas la question. Et avec ce monsieur-là, on disait que le football allait dans le bon sens aujourd'hui et que tout le monde voulait que ça avance bien.
Et mettre de côté son petit égoïsme habituel.
Ça, c'est Corbier, ça. Ah, ma barbe. Non, mais c'est quoi ces trucs?
Et ben, forcément, les joueurs, ils vont aller dans ce sens-là. Non, mais attends, mais tous les joueurs, n'importe quel joueur, même le joueur qui est aujourd'hui dans la merde et qui joue pas et qui a une équipe quasiment Ligue 2 comme Toulouse, par exemple, je pense que les mecs vont faire en sorte que le championnat se finisse correctement. Et si ça doit aller, je te répète, jusqu'au 30 juillet, ça ira jusqu'au 30 juillet.
Moi, je le souhaite. Hein, je souhaite que vous ayez raison. Mais on en a vu dans le foot des trucs.
On n'a pas vu de catastrophe sanitaire.
On n'a pas vu de choses de ce genre-là quand même. Hein, on n'est pas en train de.
Espérons-le. C'est sûr. Espérons-le.
Crois en l'être humain, Gilbert. Crois en l'être humain.
Moi, je retiens cette très grande phrase du grand penseur Jean-Michel Larquet : n'attends jamais rien de personne, comme ça tu ne seras jamais déçu. Voilà.
Ouais, moi j'aime pas cette vision de la vie.
Franchement.
J'aime pas cette vision de la vie.
Sinon,
j'aime attendre des gens et j'aime donner aux gens.
On me dit qu'apparemment, il y aurait une faute de Marcelo avec appel à la VAR à Turin.
Aïe, aïe, aïe. Pénalty possible?
Pénalty possible.
Ronaldo, il le rattrapera pas.
Il est comme un fou.
Pénalty. Pénalty, il y a quelque chose, on l'a vu au ralenti.
Ah, bah voilà.
Jérôme, le pénalty va être marqué.
Bah oui, ça va faire un 0-1-0, on va vers la prolonge. Il reste du temps là, il reste une demi-heure.
La Cavanieri là, ils ont sorti Olas. Comment il était énervé.
Non, les carabiniers, les carabiniers.
Comment il a dit?
Il a fait un mélange entre carabiniers et cavalerie.
C'est
les carabiniers à cheval.
Ou limite Cavani même, il a mélangé dedans.
Oh, c'est un mélange, écoute.
Bon, c'est but, voilà, c'est confirmé. 1-0 pour la Juve. Pour l'instant, prolongation. Il a mis le jingle but, Paul Vecchio. Viens, on va ton jingle, là. S'il vous plaît. Tout de même, Jérôme, l'absence de l'Euro, bon, on déconnait un peu à moitié tout à l'heure sur Deschamps, en disant, en plus, il a plein de joueurs blessés, ça l'arrange bien. Est-ce qu'au final, il y aura des conséquences sur l'équipe de France, dans la, je sais pas, sur l'avenir, comment tu vois ça? C'est zéro impact ou impact quand même?
Zéro impact par rapport à quoi?
Par rapport au bleu.
Que l'euro soit décalé d'un an, bien sûr que ça a un impact. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, je pense que Didier s'en serait bien passé
peut-être
aussi.
Peut-être qu'on n'aura aucun match entre finalement. Là, c'est possible qu'on ait le prochain match de l'équipe de France en septembre. Hein. C'est possible. Hein.
Ouais, ouais, non, mais c'est.
Mais c'est quoi le problème avec ton équipe non, de France là, que tu vas pas là, voir là. On s'en fout,
là,
non
là, là, en
on
fait.
On s'en fout, moi, je sais pas. C'est l'équipe de France, c'est quand même l'émanation du football français, le foot de nation. En fait, le foot non, de mais... nation, toi, tu t'en fous, toi.
Mais je m'en fous pas. L'euro, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'euro. L'euro, il y a pas. L'euro, c'est dans un an. Je verrai l'euro. Moi, tous les autres matchs. Façon... Ça fait 1000 ans que je dis que tous les autres matchs des équipes nationales qui sont pas à l'intérieur d'une Coupe du Monde ou d'un euro ou d'une Copa, enfin d'une vraie compétition, j'en ai rien à cirer. Ça m'intéresse pas. Même les qualifs, ça m'intéresse pas. Excuse-moi, j'ai le droit. Je le pense. C'est comme ça. C'est. Je préfère les clubs, les compétitions de clubs. Je préfère la Ligue des Champions. Je préfère que la Ligue des Champions ait son terme, la Ligue Europa, les championnats, tout ce que tu veux. Les bleus, je m'en fous. Je veux les voir à l'euro. Ou à la Coupe du Monde. Le reste du temps, ça ne m'intéresse pas une seconde.
Mais de toute façon, je pense que le fait que ça soit décalé d'un an, déjà, pour, on va pas dire que c'est dramatique pour l'équipe de France, parce qu'en effet, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient censés être dans ce groupe, et même des joueurs titulaires, vu leur état de forme, ça ira certainement mieux, je leur souhaite en tout cas l'année prochaine. Ils auront une saison complète et peut-être une très bonne saison. Mais il n'y a pas que pour l'équipe de France, je crois qu'il y a très peu de nations aujourd'hui, et c'est pour ça que on était assez indécis sur qui est vraiment favori de cet euro. Je pense que toutes les nations peuvent être satisfaites, si tu veux, du report, parce qu'ils auront encore un an. Je pense à l'Italie qui vit des moments très compliqués aussi. Cette équipe italienne, elle est en construction, c'est une équipe qui est jeune, elle s'épanouit, on l'a vu sur les qualifs. Je pense qu'ils seront beaucoup plus forts l'année prochaine. Et comme l'Allemagne, Polo nous en parlait aussi, comme l'Espagne, je pense que là, c'est bénéfique pour l'euro, pour la qualité des matchs de l'euro, je pense.
Les gars, on va passer à la suite. J'ai 2-3 infos encore à vous donner liées au coronavirus. Les footballeurs de Wuhan, le club de première division chinois de la ville d'où est venu le coronavirus, figurez-vous, eux, ils avaient quitté la Chine pour aller en Espagne, pour se protéger à l'époque du virus et se préparer pour la saison. Ben là, du coup, ils sont dardard rentrés en Chine, vu que tout ça a basculé. Et désormais, ils peuvent s'entraîner chez eux. Ils sont rentrés à Wuhan pour de bon. Vous savez que c'est un futur Aminois qui va y aller, d'ailleurs, dans ce club. Un ex-Aminois qui va y aller dans ce club, Niaoré, qui a signé là-bas.
Ah oui.
Oui. Et puis, je voulais également vous donner des nouvelles de Sakai. Sakai a été opéré de la cheville. Donc, on profite à Marseille de ces interruptions, évidemment, pour une intervention pour Sakai. Donc, opéré de la cheville, on a 6 à 8 semaines d'absence. Ouais. Cela dit, vu les performances récentes de Sakai, pas forcément...
Qu'est-ce qui se passe pour les suspendus longue durée? Est-ce que Jelson Martins va pas avoir la meilleure de toutes les suspensions de la Terre sans rater un match?
Non, Daniel, parce que vu que si tout va bien, et on l'espère, si tous les matchs vont avoir lieu d'ici au 30 juin ou un petit peu au mois de juillet, il va quand même les rater puisqu'il sera encore suspendu à cette époque de l'année. Il doit revenir début août.
Je fais un petit clin d'œil vers Belloumi qui m'avait glissé cette petite remarque qui m'a bien fait rire.
Et puis je voulais vous donner des nouvelles de Ronaldinho. Toujours plus dans les emmerdements.
Il a gagné un match.
Ils ont gagné un cochon grillé.
15 kilos, non
15 kilos. Ouais, sur un tournoi à l'entrée de la prison. Alors il a mis tous les buts et tout, le mec, évidemment.
Ouais, il est impliqué sur les 11 buts.
Voilà. Non, mais ça, c'est quand même génial. On commente les matchs de Ronaldinho en prison maintenant. Enfin, on fait. bref. Sauf que là, attention, il est toujours en taule, hein, le gars. Au Paraguay. Et là, attention, le procureur qui s'occupe de l'affaire à Asuncion explique que d'autres charges pourraient peser sur Ronaldinho. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été invité au Paraguay par une femme d'affaires qui s'appelle Dalia Lopez, rien à voir avec Lisandro, par exemple, ni avec Jérémy. Cette femme d'affaires est impliquée dans une affaire de blanchiment. Et elle a disparu. La justice paraguayenne la recherche. Et du coup, le procureur se dit... Bah, peut-être bien que l'avenue de Ronaldinho et de son frère, parce qu'il y a le frangin aussi, hein, l'ancien joueur de Montpellier, là, Roberto Assis, peut-être que l'avenue des deux, là, est liée à cette affaire. Vous voyez ?
Ouais.
Donc, enquête en cours. Et pendant ce temps-là, il reste en prison.
Ah oui, c'est pour ça que ça dure, parce que là, sinon, ça me semblait un peu long quand même.
Donc, il y a autre chose que du trafic de faux papiers, là, en l'occurrence.
Ouais.
Peut-être. Donc voilà, nouvelle de Ronaldinho. Dans quelques instants, attention, Eric Huette, 1412 matchs au compteur.
Il y en a un petit peu moins par rapport à hier soir.
Plus. Ah, moi j'ai dit quoi hier soir?
1500 et quelques.
T'es du genre à compter tes matchs, toi?
Pas du tout.
Très bien.
Pas du tout.
Certains les comptes.
Oh, tout est noté, non?
Non. Chaque fin de saison, je mets toutes mes fiches à la poubelle et.
Très bien, tu as raison. Tourne-toi vers l'avenir.
Voilà. Le top tu fais pas 3. Comme Jeannot. Jeannot, il a des cahiers qui remontent.
Je sais. Je me souviens avoir entendu, il fêtait son 1000e match. Il avait dit il y a un an à peine, je crois, un an ou deux.
Ouais. Essaye de les garder la prochaine fois, tes fiches. Peut-être que tu seras meilleur sur les débuts de saison.
C'est bon. C'est drôle, ça, Jérôme. Je saurai m'en souvenir.
Je t'embrasse, Eric.
Le top 3 des matchs d'Eric Huette. Et puis alors, là, on démarre avec Eric, mais bientôt, on aura le top 3 des matchs de Jérôme Rantaine, de Daniel Riolo.
Top 3, c'est impossible.
Vécu au stade, hein, de Jérôme Thomas, de tout le monde, quoi. Donc, ce sera...
Jérôme Thomas, son numéro 1. Il est avec moi, hein. C'est moi qui lui ai fait la.
Ah bah oui. Et il confirme PSG Rennes, finale de Coupe de France.
Ah bah oui. Non mais attends, il pleurait dans mes bras.
Mais les matchs vécus professionnellement ou.
N'importe, Daniel. Oh, l'essentiel, c'est que tu sois au stade.
Dans la tribune.
Voilà.
Ou
sur le terrain pour Jérôme. On va quand même lui laisser ça.
D'accord.
À Jérôme.
À toi, les matchs de Ligue 2 que tu as commenté, je pense que.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC.
L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h24, Eric Huette est là, tout comme Jérôme Rantaine, tout comme Daniel Riolo, l'After en télétravail. Puisque Jérôme et Daniel sont à la maison. Et nous, avec Eric, nous sommes en studio. Koussi Koussa nous écrit: aïe, 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 Lopez s'est blessé sur un dégagement au 6 mètres. On dit que Jean-Bien, le gardien remplaçant, est confiné à la maison. C'est Grégory Coupé qui est parti s'échauffer.
Drôle.
Voilà. Et puis un peu plus sérieusement, Simcha le dit: et si Depay était là pour la reprise du championnat? Ah, pas bête.
Pas bête, écoute.
Voilà.
Ouais, c'est possible. Hein.
À Rennes, peut-être que Jonas Martin jouera un jour. Tout est possible du coup, hein. Ça relance certains joueurs.
Ces interruptions, effectivement, peuvent aider certains joueurs à revenir en forme, à revenir tout court. Ouais.
Ah ouais, Thauvin peut finir une fin de saison de ouf là, par exemple. Et puis Sylvain nous dit: mais enfin, pourquoi vous parlez de l'Euro alors qu'il y a un match de Ligue des Champions ce soir? Je ne comprends pas, nous dit Sylvain. Je rappelle qu'il y a toujours 1-0 pour la Juve à 20 minutes de la fin du match. Et puis pour ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour vous. Jingle, top 3, Eric Huette.
Un Macassé qui va pouvoir passer et qui va marquer le but. Est-ce que c'est le but? Oui, le but pour Carcafou. Le but pour Carcafou. Le but de Jérôme Rantaine. C'est David Ginola qui est de retour au Parc des Princes.
Ça, c'est du commentaire.
Vous l'avez compris, ce n'est pas du tout Eric Huette, hein, qui n'a jamais commenté un PSG Metz du 15e contre le dernier.
Je veux dire, c'est pas 15e contre le dernier déjà. Arrête de dire ça.
Alors, donc le but de cette nouvelle rubrique qu'on lance là, dans cette période sans match, c'est de se remémorer quelques grandes rencontres de l'histoire du foot, parce qu'on a à peu près tous eu cette chance-là d'être parfois dans un stade, dans un moment un peu crucial, où on a vécu des matchs incroyables et tout. Donc on va démarrer avec toi, Eric. Quel est ton top 3 des matchs que tu as vécu au stade?
Alors, j'espère en tout cas vous fournir un top 3 original. Alors quand vous m'avez dit cet après-midi c'est au stade, du coup j'ai changé parce qu'au départ je voulais vous parler de Crystal Palace Liverpool, le fameux 3-3 et le match où on sait que Steven Gerrard ne sera jamais champion d'Angleterre avec les Reds.
Donc là t'étais au stade.
Je l'ai commenté en cabine, donc ça ne compte pas.
Ah, ça compte
donc,
pas.
Je l'enlève. Un que je n'ai pas commenté et c'est pas pour faire plaisir à Jérôme, mais je suis obligé de l'évoquer en termes d'émotion, c'est le Chelsea Monaco, le match retour demi-finale de Champions League 2004.
T'étais à Chelsea?
J'étais à Chelsea.
Ah, bien.
Celui-là, je vous en parle parce qu'on va pas revenir sur le match et tout, même si je rappelle.
Si tu peux, vas-y.
Ah, on peut. Alors, rapidement rappeler que Gronkier et Lampard avaient donc marqué pour Chelsea. Et à ce moment-là, Monaco était éliminé.
Ouais.
Et...
Attends, je m'allonge là.
Oh. Voilà. On file vers la pause. Moi, je suis donc avec tous les supporters monégasques qui étaient très nombreux, parce qu'on le sait, la communauté monégasque est très nombreuse en déplacement. Et figurez-vous qu'à un moment donné, je me retrouve avec derrière moi quelqu'un que je connais très bien, qui nous a malheureusement quitté il y a 5 ans, bientôt 5 ans, c'est Patrice Dominguez.
Et ah, il était là?
Il était là.
Avec les supporters monégasques?
Il était là avec les supporters monégasques. Moi, j'étais là avec un très bon ami que je vais citer, Laurent Dupin, qui travaille sur la Formule 1, sur une chaîne que vous connaissez.
Canal Plus, tu peux le dire.
Et on était partis ensemble, on rejoignait donc un de ses potes à Londres pour ce Chelsea-Monaco. Et je me retrouve donc, tu te souviens Jérôme, les supporters étaient derrière le banc de Didier Deschamps. Le banc de la SM.
Derrière là, quand tu rentres à droite.
Aujourd'hui à Chelsea, vous avez les supporters sur la gauche. Quand vous êtes devant votre écran, ils sont sur la gauche, à gauche du but de gauche.
En bas.
Voilà, en bas, sur le côté. Et à l'époque, les supporters adverses étaient derrière le banc de l'équipe
latérale.
Ce qui est bizarre comme emplacement d'ailleurs, parce que les supporters adverses, tu les fous en haut dans un coin.
Si ce match est resté est mémorable pour moi, et c'est pour ça que je vous en parle, et parce que vécu au stade, c'est que non seulement le but d'Ibarra juste avant la pause, Jérôme, n'aurait jamais dû être validé, puisque tu le sais très bien toi aussi, il a touché le ballon du bras. Il faut savoir qu'à à l'époque, il y a des écrans géants dans Stamford Bridge. Et pendant la mi-temps, mais ça Jérôme ne sait pas parce qu'il était dans les vestiaires, mais pendant la mi-temps, on revoit les meilleurs moments sur les grands écrans et on revoit la main d'Ibarra mais qui tourne en boucle quasiment. Et on entend les supporters siffler, puis petit à petit, ils oublient parce que le but a été accordé et voilà, c'est comme ça.
Derrière, avec Deschamps, ça passe toujours.
Derrière, il y a le but de...
avec Deschamps, ça passe toujours. Deschamps, je crois, n'a jamais connu un match où il y a eu un fait de jeu contraire.
Là, c'est passé. Morientes a marqué le but à l'heure de jeu. Là, il fallait que Chelsea en marque 3 pour se qualifier. Donc, c'était vraiment une dernière demi-heure mémorable. Et deux choses à souligner. La première, c'est évidemment, Jérôme, le match que tu as fait ce soir-là, c'est certainement, moi, à mon goût, le meilleur que tu aies fait sous le maillot monégasque.
Ouais.
Et deuxièmement, les buts, les deux buts et la joie finale, je ne les ai pas célébrés avec Laurent Dupin qui lui plongeait dans les bras de son pote qu'il avait rejoint à Londres. Je les ai célébrés avec Patrice Dominguez qui était pourtant avec des amis et je me suis retrouvé à chaque fois
Avec Patrice, moi je croyais que c'était un grand malade du PSG.
Écoutez, il était invité par Didier Deschamps.
Il était souvent à Monaco, hein.
Oui, absolument. Absolument.
Ah bah ça, oui, il était souvent.
En termes de souvenirs mémorables, j'ai classé ce Chelsea Monaco sur la troisième marche du podium.
Juste pour finir sur ce match, donc c'est là que après le match, Roman Abramovich rentre dans les vestiaires et dit à Jérôme Rantaine, je te veux. Et c'est là que Jérôme lui dit non. T'es gentil. D'abord, t'es qui
Il a dit t'es gentil, je vais aller au PSG parce que l'année dernière on a dit que le maillot du PSG était trop grand pour moi, mais maintenant il va être à ma taille.
Ouais. Je lui ai dit écoute, tu vas prendre un entraîneur, tu vas prendre José Mourinho. Je préfère aller voir Vaïdali Lodzi qu'à Paris.
Voilà.
Au moins lui, il m'apprendra des choses. Voilà. Et ça a duré 6 mois.
C'était quoi cette histoire de maillot trop grand? Je me souviens de
ça.
Mais
c'est Louis.
C'est Louis.
L'année d'avant, Jérôme était évoqué comme transfert possible. Deux ans avant.
C'était quand j'étais à 3, la première année, donc ça remonte.
C'est bien ce que je dis. C'est avant que tu ailles à Monaco.
Ah ouais, mais c'est bien 2 ans, c'est 4 ans.
2004, c'est 2002.
2001. 2001,
pour la saison 2001-2002.
À Monaco.
Pour la saison 2001-2002, on évoque le transfert de Jérôme au PSG parce que c'est son club, on sait qu'il aimerait bien venir. Et là, Louis dit, ouais, il est bon, il a de l'avenir et tout, mais je pense que pour l'instant, le maillot du PSG est un petit peu trop grand pour lui. Et à la place, Louis avait été allé prendre Agostinho. Qui a fait un demi-match au PSG.
Et tu confirmes, Jérôme, que tu as failli partir, tu as failli ne jamais jouer à Monaco, tu as failli partir à Nantes.
Exactement. Exactement. Comme quoi, tu vois, ça se tient à... Ça tient à rien du tout, du moins. Voilà, il faut avoir de la personnalité dans le foot pour avoir ce que tu veux, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent se mettre au milieu de tout. Si tu t'écoutes toutes les rumeurs et tous les discours des gens, tu sais plus, ta tête elle est à l'envers. Donc après, il faut choisir. Et bah moi, j'ai toujours eu des choix très clairs, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a regardé. Alors j'ai fait souvent des bons choix et j'en ai fait des moins judicieux, mais c'est comme ça.
On me signale quand même, c'est Alexis qui me dit ça, quand même Deschamps, France-Portugal en finale de l'Euro, on peut pas dire que c'était vraiment en sa faveur.
Ouais, mais c'est pas du tout ça que j'ai dit.
Ça s'est joué à un poteau.
T'as dit
les faits de jeu.
Les faits de jeu, j'ai dit. J'ai dit en gros quelque chose qui te tombe dessus sur le coin du pif. J'ai pas dit c'est le match, il a le droit de le perdre. Je te signale que sur cette finale, pardonne-moi, mais si les faits de jeu lui sont pas favorables, qu'est-ce que c'est? Le Portugal perd Ronaldo au bout d'un quart d'heure. Excuse-moi, si ça c'est pas un fait de jeu favorable, il fallait qu'il y ait quoi encore dans cette finale favorable?
La finale avec des champions, fait de jeu défavorable.
Il y en a, hein, y en a, Jérôme.
La première année avec Monaco, on doit être champion devant Lyon. L'ami de Gilbert, Bruno Derrien, nous a mis un penalty sur moi en plus. Et derrière, on prend un contre, on prend un but et on perd 1-0. Voilà, donc il y a eu des faits de jeu défavorables.
Grâce à RMC, vous êtes réconciliés. C'est pas beau.
Faites
ça.
Jeu défavorable, faites jeu défavorable. Contre Porto, vous étiez moins fort,
Il y a, Daniel, tu as raison.
Vous êtes largement en dessous, bah,
tu as raison. Sauf que lors de cette finale, Juli se blesse. Et surtout, à un moment donné, alors qu'il y a 0-0, Morientes part au but. Il est signalé en position de hors-jeu. Et il ne l'est pas, mais au moins pour presque un mètre. Et ça, s'il marque derrière.
Ah, mais ça, bon, s'il marque.
Avec Desi, oui, je sais bien.
Mais... Bon, alors, c'était ton premier match, il en reste deux.
Je vais faire assez vite. Je voulais vraiment trouver des matchs. Bon, on a le temps. Je voulais vraiment trouver des matchs qui sortent de l'ordinaire, mais qui, pour le coup, étaient des matchs inoubliables. Si je vous dis le 21 décembre 2011, et j'ai commenté donc les deux derniers matchs dont je vais vous parler, 21 décembre 2011, un match à Lille, dernière journée du championnat. 2010-2011, Lille est à leur
21 décembre, ouais, dernière journée de championnat.
À l'époque, Lille est champion de France en titre, juste avant la trêve. Oui, j'ai dit quoi, fin de championnat?
Oui,
fin de première partie de saison, pardon. Lille-Nice.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ce
match? C'est quoi ce match?
Je vous donne le score. 4 à 4.
Je me souviens pas, tiens.
D'accord, et c'était bien ça.
Alors, celui qui avait. Lille était managé par Rudy Garcia, Nice par René Marsiglia. Hier dans Team Duga, il y a celui qui a fait ses courses, Aurélien Chedjou, joué à Lille à l'époque. C'est lui qui avait ouvert le score à la 10e minute. Lille était largement favori de ce match. Renato Sivelli a égalisé à la 15e minute. Djoko l'a donné l'avantage à Lille à la 26e. Il y a 2-1. Djoko. C'est un super match. Et puis là, Franck Djadjedje.
C'est pas mieux au tennis après?
Franck Djadjedje marque deux fois pour le GC Nice. Pour les
Franck Djadjedje, l'autre, il est en train de nous parler de matchs de légende avec Franck Djadjedje dedans. Non, mais pardon, Eric, mais qu'est-ce que c'est que ce match moisi?
C'est ça, mais non, c'est pas un match moisi.
Le seul truc positif dans ton match, c'est la présence de Renato Sivelli, qui est un de mes joueurs chouchou depuis des années.
Je l'ai gardé pour le.
On en est à 2-2.
La plus haute marche, je peux dire. 3-2. Parce qu'il en met 2. Ah oui, 3-2. Il en met 2. Retour des vestiaires, il se passe pas grand-chose jusqu'à un quart d'heure de la fin. Eden Hazard égalise. Non, pardon, Eric Moulungi se fait exclure à la 72e minute. Donc Nice mène 3-2 mais se retrouve à 10. Eden Hazard égalise à la 76e, 3-3. Debuchy tire sur le poteau. C'est suivi, Balmont marque d'un super enchaînement à la 86e minute.
Et il surréalise son match. Balmont marque d'un super enchaînement.
Magnifique. Je vous encourage à retrouver les images.
Vas-y, continue, c'est pas fini là.
Debuchy tire une deuxième fois sur le poteau. On est dans les arrêts de jeu, il y a 4-3 pour Lille. 91e, 92e, 93e, 94e, 95e minute, François Clair égalise pour Nice. Ça fait 4-4, et quand vous commentez ce genre de match, à la fin vous dites, voilà, moi je me suis avoir conclu en disant c'était un match abracadabrantesque, et voilà, c'est le match où vous assistez à un scénario totalement improbable.
Moi je te comprends, parce que ce qui est étonnant, c'est que bon, quand tu vas faire Lille-Nice à 21 décembre, il va faire moins 10, tu te dis, demain je pars en vacances. Bon, t'attends pas grand chose, quoi.
C'est exactement ça, t'as tout compris.
Et au final, tu tombes sur un truc, un scénario de dingue.
Dont je me souviens encore aujourd'hui. Voilà.
Ben voilà. Moi, je comprends.
Et le premier.
Et attends, et t'as pas honte quand même de mettre ce match-là avant le Chelsea-Monaco?
Non, parce que je l'ai pas commenté.
Non, mais je m'en remettrai plus jamais. Non, mais là, je
c'est par rapport. Je devais choisir trois matchs que j'ai commentés, j'en ai choisi que deux. Sinon, Chelsea-Monaco arrive en un, tu t'en doutes, Jérôme.
Ah, évidemment. Bien sûr.
Et le premier match dont je voulais vous parler, qui est pour moi donc au-dessus, et pour le coup.
Amiens-Dijon.
Bah, t'es pas trop loin.
Non.
C'est un match qui oppose deux clubs de Ligue 2.
Oh.
Mais, messieurs, et j'espère que ça va vous rappeler des souvenirs, c'était une demi-finale de Coupe de France.
Demi-finale de Coupe de France, deux clubs de Ligue 2, mais qu'est-ce que tu veux que ça nous reste en tête, un match moisi?
Je veux faire plaisir aux supporters de Sedan et aux Sangliers Ardennais. Hein, le stade Émile Albo.
Sedan-Nice?
Sedan-Le Mans.
Sedan-Le Mans?
Sedan-Le Mans.
C'est pas Eric Huette, c'est Frédéric Verdier qu'on a aujourd'hui.
Non, mais il fallait que je sorte de l'ordinaire. J'ai pris des chemins de traverse.
Ah, bah là, rassure-toi, t'es sorti de l'ordinaire, là.
C'est trop facile,
mais. Bah, c'est plus le croissant ordinaire, il n'y a plus de croûte, il n'y a plus facile, rien, là.
Alors, pourquoi j'ai choisi ce match? À l'époque, c'était donc en avril 99. J'ai commencé à commenter des matchs en radio en 97. Donc, au bout de deux ans, commenter une demi-finale de Coupe de France.
Sur quelle radio
pour moi, c'était déjà énorme. Europe 1.
D'accord.
C'était déjà énorme pour moi de commenter une demi-finale de Coupe de France. Pourquoi j'ai commenté Sedan? Parce qu'à l'époque, personne n'avait envie d'aller à Sedan, commenter les matchs de Sedan. Sedan, c'était loin, il n'y avait pas la
grande... Ouais, c'est vrai. Personne n'a jamais aimé aller là-bas, surtout le bout de route entre Charleville et Sedan.
Oui,
c'est
exactement. Maintenant,
ce bout de route, il est galère.
Maintenant, c'est autre chose. Mais à l'époque, il n'y avait pas eu encore les travaux pour permettre d'aller là-bas.
Le centre-ville est sympa là.
Ah bah oui, oui, le centre-ville de Sedan.
Et on m'a demandé un jour, il y avait un match en retard Sedan-Lille, parce que Lille était en deuxième division à l'époque.
Crêperie.
Match en retard, on m'a demandé est-ce que ça te dirait d'aller commenter le match Sedan-Lille. On refuse pas, hein, quand on est comme ça. Bon, ça faisait à peine 2 ans que je commentais des matchs. J'ai dit, bien sûr, ouais. je veux bien. Et j'étais complètement tombé amoureux de cette équipe de Sedan. Et du coup, on m'a envoyé tous les 15 jours faire Sedan.
Il y avait tous les Sudanais historiques là, les Mionnais, Sachi et compagnie.
Mais c'était dans l'ancien stade alors.
Oui, et Milan
qui roulait avec la Smart avec leur nom en énorme dessus.
Alors ça c'était après.
Ça c'était après.
Et Césarine, elle était là, Césarine.
Oui, bien évidemment.
Il avait pas encore bouffé.
Qu'est-ce qu'il raconte celui-là?
Donc j'en reviens
à cette demi-finale historique, messieurs, je vous assure. Il faut se rappeler du contexte. En quart de finale, au tour précédent.
Oui, c'est comme ça qu'il s'appelait le sanglier.
Tais-toi, moi j'ai écouté, vas-y.
Au tour précédent.
Après, il y avait Dudul d'ailleurs.
Exactement. Il y a eu les deux.
Ah, je crois que Césarine est là.
Ah, Césarine, elle est pas contente.
Il faut se rappeler. Alors, c'est le chien de Jérôme, peut-être.
Il faut se remémorer l'époque en quart de finale, donc un tour précédent, il n'y avait qu'un club de Ligue 1 encore engagé, c'était Nantes. Il y avait 5 équipes de Ligue 2, une équipe de Nationale, Angoulême, et un club de CFA 2, Rouen. Voilà, ça c'était le décor de la Coupe de France.
Voilà. Ouais, c'était la grande époque de la Coupe de France délaissée par tout le monde.
Coupe de France,
je me souviens
de
cette période horrible.
Donc résultat, demi-finale, Stade Émile Albaud, 13 580 personnes, Sedan, Le Mans. Non, alors la pelouse, elle était
C'est clair, hein,
exécrable.
J'y ai joué dessus.
Au niveau du rond central, les amis, vous pouvez pas imaginer. Pareil, je vous encourage à revoir les images. c'est horrible. Ce qui se passe dans ce match, c'est que il faut attendre quasiment la fin de la première période pour voir le premier but. C'est sur un penalty transformé par Dagui Bakary. Le Mans mène 1-0. Et il se passe, alors pas plus rien, mais en tout cas au tableau d'affichage, plus rien jusqu'à un quart d'heure de la fin. Alex Dirocco, qui est entré en jeu, égalise sur un coup franc de Quint. Olivier Quint, c'est simple, c'est sa masterclass ce soir-là. Puisque c'est le score final, 1-1.
Olivier Quint, c'était une sorte de sous-Jérôme Rantaine.
Ça peut paraître un peu péjoratif.
Dans cette veine, il a trois orteils
de mon pied gauche.
Est-ce que Jérôme Rantaine lui-même est un sous-Monterrubio?
Non. Normalement, un quin plus un Monterrubio fait presque un Jérôme Rotten, pas encore tout à fait. Il faudrait que tu rajoutes.
Il faudrait que tu rajoutes un Galtanic, tu vois,
pour faire.
Est-ce que Jérôme est le Lidl de Monterrubio?
Ah non, mais j'aimerais bien savoir.
Il faut absolument
qu'on trouve. Lançons sur le hashtag mon after là. De qui Jérôme? Non mais je dis sérieusement, de qui Jérôme peut être le sou de qui il peut l'être?
Hein?
Un grand gaucher du sort du foot.
Voilà. De qui tu es le sou?
Mais je suis le sou de personne.
Des gauchers dans le foot, il n'y en a pas eu de meilleurs que toi.
Mais c'est pas du tout ça. Par rapport au poste, il faut prendre les spécificités du poste. Parce que des gauchers.
On est obligé de prendre des gauchers?
Ah oui. Il faut prendre des gauchers qui jouent. Un mec de côté gauche.
Un joueur de côté, mais pas. Voilà, c'est ça.
Si, t'inquiète, on va trouver. T'inquiète.
Mais okay. Un sou, non, t'en auras pas.
Messieurs, retour au stade Émile Albaud. 1-1.
Par contre, tu peux en mettre 3.
Prolongation.
Je te dis, je l'ai. Attends.
Tais-toi, Eric.
Non, mais Olivier Quint, Gaël Danic et Olivier Monterrubio, ouais, peut-être qu'ils arrivent à faire un bon Jérôme Rotten.
Mais t'inquiète, on va trouver les mecs au-dessus. Je suis en train de réfléchir.
Et donc, ceux dans Le Mans, en 99, c'est un peu Italie-Allemagne, Coupe du Monde 70.
Franchement, tu fais des parallèles de malade. Hein.
C'est fait exprès.
D'accord,
forcément.
Vas-y.
Sedan prend l'avantage pour la première fois dans ce match à la 96e minute grâce à Olivier Quint. Donc, déjà passeur décisif sur le premier but. Puis Pius Ndiaye à la 109e porte le score à 3-1 sur une frappe de Quint. Repoussé par le gardien du Mans qui était Regnault, qui a joué à Sedan également. Là, il y a donc 3-1 pour Sedan, on est à 10 minutes de la fin, le stade Émile Albaud explose, ivre de joie, Sedan va aller en finale et tout et tout. Et puis arrive la 116e minute, Chagnot pour Le Mans, mais remet les deux équipes, non pas égalité, mais réduit l'écart à 3-2. Pius Ndiaye sur une passe décisive de qui, je vous donne en mille, d'Olivier Quint, permet à Sedan à 2 minutes de la fin de porter le score à 4-2, et là on se remet, allez c'est bon, Sedan va aller en finale. Le coup d'envoi est à peine donné, que derrière les joueurs sedanais sont même pas encore en place, que Le Mans marque un troisième but par Revillet, et derrière on se dit bon, là le trouillomètre va être bientôt à zéro côté sedanais, et oui parce que dans la foulée, on est à la 120e minute, nouvelle offensive pour Le Mans, et là tire sur la barre transversale. Ça aurait pu faire 4-4. On en est resté à 4-3, c'est une prolongation dantesque, messieurs, je vous jure, ce ne sont pas des salades que je vous raconte. C'était une super demi-finale.
Et bah, bravo.
J'étais tout seul à commenter.
Et ben moi, je préfère ça plutôt que tu nous sortes la finale de la Coupe du Monde, tu vois, France-Croatie. Ou,
ah, il n'a pas commenté.
Alors,
dans ma chambre à l'époque.
Non, mais franchement, c'est vrai, c'est exceptionnel. En plus, il y a plein de gens là, il y a plein de Sedanais qui se réveillent. Jack, il me dit moi, j'y étais à la demi-finale. Merci pour Sedan, nous dit Jack. Tu vois,
voilà.
Je rappelle que RMC est à Sedan sur 104.5.
Sedan qui s'est incliné en finale contre Nantes. Vous parlez de Monterrubio, Jérôme, avec un penalty qui avait été accordé par Pascal Garibian. Et vous demandez aux Sedanais, il n'y avait pas penalty. Et Monterrubio transformé.
Là, t'as mis une petite mine Garibian, le pauvre.
Non, mais il y a prescription.
Garibian, c'est l'ami de Jérôme Rotten depuis qu'il l'a converti au VAR.
C'était pas il y a 30 ans, il y a un peu plus de 20 ans, mais on va considérer qu'il y a prescription.
Tiens, j'ai un tweet de Quares Majambe, qui est le frère de Quaresma Grosskreutz, ses enfants. Il dit, c'est facile, Jérôme, c'est un sous-malouda.
Bon. Non, ça marche pas.
Non, ça marche pas.
Ah bon?
Non.
Bon, d'accord. Merci Eric pour ces trois matchs, c'était très bien. Nous aussi, on va réfléchir à un autre. On demandera aussi à notre drôle de l'âme. Moi, je pense que les trois matchs de Paulo Breitner, ça peut donner quelque chose d'assez baroque. On verra ce qu'il est capable de nous sortir. Mais ça peut être drôle. Dans quelques instants, on passe au chapeau, messieurs, dames, et on accueille tout le monde.
Il est temps.
Il est temps, c'est parti.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Eric Huette, ce soir, on continue le débat. On va démarrer les chapeaux dans quelques instants, mais juste avant, j'aimerais qu'on accueille Lucas au 32-16 qui est avec nous. Lucas, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Lucas, ça va?
Salut Lucas.
Ça va et toi?
Ça va. Tu voulais dire un mot de l'after, là, en général, je crois.
Ouais, en fait, c'était un petit avis, c'est qu'en fait, j'aimerais bien que, parce que la dernière fois, t'as lancé un appel sur Twitter pour qu'on donne des sujets.
Ouais, hashtag mon after.
Voilà, mais le truc c'est que j'ai pas Twitter, donc je peux pas je peux pas te tweeter.
Sur Direct Studio sinon.
Ouais, et donc du coup en fait l'idée c'était que vous parliez de matchs de légende, mais pas ceux d'Eric Huette, des vrais matchs de légende.
je tiens à préciser, je l'ai sous les yeux sur le conducteur, 22h22, mes trois matchs préférés vécus au stade.
Mais bien sûr, moi j'ai
chacun sa question de matchs de légende.
Voilà.
Chacun sa légende.
Ouais, bon, mais mais du coup,
je suis fier de mon choix. Voilà.
Du coup, des vrais matchs de légende des années 70-80, parce que Daniel, il a quand même une super culture foot au niveau du passif, sur le football. Il y a Polo aussi en drôle de dame qui a une putain de culture au niveau foot. Et donc, du coup, je trouverais que.
Parce que les autres, non.
Si, les autres, bien sûr, si, mais souvent, Daniel et Polo, ils aiment bien insister sur le côté passif. Hein. Donc, c'est pour ça que je parle d'eux. L'idée ça serait de parler des gros matchs des années 70, 80, 90, parce que moi j'ai 26 ans, donc c'est une période du foot que j'ai lu à travers les livres ou que j'ai vu à travers des vidéos, mais que je connais pas plus que ça, et souvent je fais ma culture foot grâce à l'after. Et donc du coup je trouve que ça serait hyper intéressant de parler des matchs, mais en même temps du côté politique.
On a prévu ça, on va le faire. Polo veut notamment s'amuser à déconstruire le mythe France RFA de 82, donc tu vois, on va y revenir.
Ouais. Okay. Alors ça reste très mystérieux comme projet.
Oui, bah c'est Polo, hein, il va y arriver.
J'ai trouvé pour Jérôme. J'ai trouvé pour Jérôme.
Donc écoute, en tout cas Lucas, moi je retiens tes propositions, je les ajoute à la liste. Hein.
Ok, bah super, merci les gars.
Salut Lucas, à bientôt.
Alors j'ai trouvé.
Attends, il a trouvé pour moi.
Alors Jérôme est un sous Ryan Giggs.
Ouais.
Ah bah quand même.
Oui, bah attends, est-ce que je t'ai contredit?
Moi j'en ai d'autres. Hein. Moi on me propose un sous Pires.
Non, pas exactement.
Il est pas gaucher Pires.
Non, il est pas gaucher. Moi j'ai un sous Arjen Robben.
Et un sous Laurent Robert.
Non.
Non, puis en plus, alors pas du tout. En plus, c'est rien à voir. Non, mais toi, ça te fait
un sous Rivellino. Un sous Rivellino, oui.
Et un sous Gengini, on me dit.
Gengini était un 10. C'est pas du tout le même poste. Et j'en ai un autre qui va pas lui faire plaisir. On me l'a proposé. Les autres d'avant, là, j'étais d'accord et tout.
Quand c'est des conneries.
Mais celui-là. Un sous Renal Pedros.
Non mais la vérité c'est que c'est surtout un sous Di Maria.
Franchement
aussi.
Ouais.
Mais qui a battu ton record de passes décisives.
Parce que, non, mais parce que ça, tous ces joueurs-là ont joué dans le championnat de France, on est d'accord. Donc, normalement, c'est des passeurs. Donc, les références.
Non, mais pas Giggs, c'est pas Robben, pas.
Ah non, non, mais bon, non, mais Giggs, je. Ok.
J'accepte. On me dit même que t'es un sous Kalilou Fadiga.
Mais, ouais, c'est ça, ouais.
Non, mais ceux que j'ai cités, ça marche. Ceux que j'ai cités, ça marche.
Quoi? Non, y a...
Giggs.
Oh, Giggs. Giggs, oui.
Giggs, Robben,
Di Maria.
Mais pas Robben.
Non, Robben, il joue à droite. Moi, je ne compte pas.
Oui, d'accord, mais, c'est comme non, mais au début de sa carrière, c'est comme si à un moment, on avait pris Jérôme pour le mettre de l'autre côté. Mais Robben, c'est un vrai gaucher, exactement, un peu de la même nature que Jérôme.
Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, au départ, il joue à gauche.
Voilà.
C'est vrai. C'est pour ça qu'il peut me remercier, Robben, parce qu'à Chelsea, quand j'ai dit non, ils l'ont pris derrière.
La particularité, je vais te défendre Jérôme, c'est que t'arrivais quand même à centrer sans dribbler, voilà, il y avait d'autres gauchers n'arrivaient pas à le faire.
Il y avait une vision du jeu bien au-dessus de la moyenne.
Non, mais bon, voilà, je suis content d'avoir trouvé. Et ça va, tu devrais être flatté parce que c'est que des super joueurs.
Et moi, je maintiens mon Bruno Bellone, dont je parlais hier, et j'ai retrouvé.
Tu maintiens un sous Bruno Bellone.
Non, j'ai retrouvé le petit extrait de l'année dernière quand on a fait le 11 de Monaco. Dans l'équipe type, moi j'avais pas donné d'équipe type. Gilbert me demandait de valider l'équipe type qui avait été faite par les auditeurs. Et j'avais évoqué parmi les gauchers de Monaco, évidemment qu'il y avait Jérôme. Et s'il y avait bien un joueur qui était susceptible de remplacer Jérôme à ce poste-là dans l'histoire de Monaco, c'était Bruno Bellone. Parce que dans l'équipe type, il y avait Marcelo Gallardo. Et on compare pas non plus.
Ah, exactement.
Marcelo
exactement.
Était donc dans le 4-4-2 à gauche. Oui, et on compare pas du tout Gallardo à tes caractéristiques de gaucher, Jérôme.
C'est vrai.
Je lui ai pris sa place après. Donc.
Attention, on y va pour les chapeaux. C'est parti, jingle drôle de l'âme. Alors, avant de les accueillir, je rappelle quand même le concept qui a été lancé il y a maintenant. Ça doit bien faire 4-5 ans, cette histoire. C'est-à-dire que tous les ans, on s'amuse. Normalement, en période creuse, ce qui nous tombe dessus de façon là inopinée. Période creuse footballistique. On s'amuse à classer par chapeau, un peu comme les chapeaux de la Coupe d'Europe, les chapeaux des tirages au sort. On classe par chapeau les joueurs, poste par poste. Alors, évidemment, dans les chapeaux 1, c'est les meilleurs. Dans les chapeaux 4, c'est des gars pas mal, mais moins bons que le chapeau 3, le chapeau 2, le chapeau 1. Mais tout ça, quand même, dans un contexte bien particulier que je vais rappeler, parce que c'est quand même important, toujours, de remettre ça dans le contexte. N'est-ce pas, comme on dit dans le monde du football. Alors, je rappelle le principe. Vous êtes directeur sportif du club le plus riche du monde.
Le FC After.
Par exemple, le FC After Foot. Vous avez moyens illimités, portefeuille, vous avez tout, la thune du Qatar, des Émirats, de qui vous voulez, bref, vous avez tout ce que vous voulez.
Mais malgré tout, il faut bien la gérer, cette oseille.
Voilà. Et là, vous vous dites.
Il faut bien la gérer.
Qui je prends comme neuf? Voilà, j'établis ma petite liste, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, et après, je vois ce que je peux faire. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aussi penser éventuellement revente, voilà.
Fin de carrière proche ou pas proche.
Exactement.
Voilà quoi.
Tout rentre en ligne de compte.
Le mec qui me met chapeau 1, un mec de 33 ans, c'est qu'il a rien compris.
Non, pas forcément. C'est son choix.
Pas forcément.
C'est son choix.
Mais pour moi, à mes yeux, il a rien compris.
Toi, tu peux estimer que c'est un mauvais management, mais.
Exactement.
Pourquoi pas.
Exactement.
Voilà. Pour les chapeaux, évidemment. Il est impératif que le drôle de l'âme soit présente. Et elles sont là, bien sûr, emmenées de main de maître par Fred Hermel. Fredo, bonsoir.
Hola, chicos.
Nous avons également avec nous Simone Rovera. Oui, on t'entend très bien, Fred.
Ah oui, très bien, parce que j'ai eu une sorte d'écho, donc...
Non, on t'entend très bien. Simone Rovera, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut, Simone.
Polo Breitner est avec nous. Polo, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde. J'ai strictement rien compris aux règles, mais c'est pas grave. Et c'était très dur.
Pourtant, c'est quand même bon.
Non, ouais. Parce que si on te dit que t'as tout l'oseille du monde et que derrière on te parle de revente, on s'en fout. C'est que t'as pas un problème d'oseille. C'est si tu commences à penser à revente, t'as un problème
d'oseille. Bravo, bravo.
Polo, toute l'oseille du monde. Daniel,
Polo. Non,
mais ça t'inquiète pas. Il y a François Rafa qui arrive là, ça.
Non, j'ai ajouté.
Je bosse comme un fou.
Non, j'ai ajouté. Soyez de bonne foi. J'ai ajouté. Certes. T'as l'oseille pour acheter, mais tu dois bien la gérer. Le but n'est pas de tout claquer sur un joueur qui va te faire juste 6 mois. L'idée, c'est
moi,
de
bien... Moi, j'ai pas reçu un mail qui m'expliquait ça.
Bah alors, je te le dis, c'est que tu gères bien, voilà. Polo. L'idée, voilà. C'est que tu gères bien, c'est que tu ne brûles pas l'oseille. Tu ne brûles pas l'oseille. L'idée, c'est que tu fasses un bon management. Non, mais ça veut dire que tu fais un bon management, tu comprends, Polo?
Attention, parce que lui aussi est un spécialiste des chapeaux. Julien Cazard nous rejoint. Julien, bonsoir. Bonsoir. Bah, merci pour le holala. Alors, bonsoir.
Non, mais moi, j'adore quand t'es là.
Alors, je préfère vous prévenir. Moi, comme je, votre espèce de truc de gestionnaire, j'en ai absolument rien à foutre et que j'ai envie de garder un minimum de romantisme dans le foot puisque le fair play financier est fait pour ceux qui dirigent vraiment le football. Donc, moi, j'ai fait des chapeaux en fonction de, moi, en tant que, si j'avais un club, je ne suis pas Daniel Riolo, je ne suis pas Paul Breitner. Moi, j'ai choisi des mecs qui me, un œuf, pour moi, c'est un rôle particulier. C'est un mec, je veux qu'il me fasse gagner la Ligue des Champions. Cette année, j'en ai rien à foutre dans un an, j'en ai rien à foutre dans deux ans ni dans trois ans. Je ne fais pas de l'apothicaire, je veux un mec qui me marque des buts pour gagner la Ligue des Champions cette année, parce qu'on va tous mourir à la fin.
Dans quelques instants.
En fait, il est chiant quand il est sérieux. Hein. Mais c'est la définition du supporter du PSG que tu nous fais. Hein.
Dans quelques instants,
pauvre con. Pauvre con.
Attendez. Tour de table, les gars. Le match de Lyon vient de se terminer. On en était à 1-0 à une demi-heure de la fin. J'aimerais que chacun me fasse son scénario. Il devait se jouer ce soir, ce match. À votre avis, que s'est-il passé, Julien?
C'est quoi? C'est Lyon quoi?
C'est Lyon-Juve. C'est Juve-Lyon plutôt.
C'est Lyon-Juve.
Il y avait 1-0 à une demi-heure de la fin, but de Ronaldo.
Entre-temps, je pense qu'ils ont, Rudy Garcia a fait entrer un défenseur en plus parce qu'il pense que si il bétonne, il va peut-être faire reculer la Juve par trop de confiance. Résultat, il a culé sur son but, il en prend deux, ils prennent 3-0 sec et à la fin, il considère que ça s'est joué à rien.
Daniel, il s'est passé quoi?
Ah, 10 minutes de la fin, Dybala a enterré les espoirs lyonnais.
Jérôme, il s'est passé quoi?
Le match n'est pas fini et prolongation.
Ah. But d'Higuain, but d'Higuain contre son camp à partout.
Anthony Lopez, donc c'est vrai que Grégory Coupé a dû le remplacer en cours de match, hein, parce qu'on sait que le deuxième gardien était confiné à Lyon et Grégory Coupé a fait des miracles pour emmener Lyon en prolongation.
D'accord.
Magnifique.
C'est pas le Grégory Coupé qui s'est fait remplacer par Apoula Edel alors?
C'est pas lui. Non, parce que très bon souvenir.
Fred, Simonet, Polo, vous avez un scénario?
Moi j'ai dit but d'Higuain contre son camp.
Et en fait, j'avais le même que Fred, mais à l'effet inverse, c'est-à-dire but de Dembélé sur corner, mais contre son camp.
Bon. Alors par contre, en revanche, malheureusement, le Real est éliminé ce soir. Hein,
ah bon?
Zidane sur la scène. Moi je suis plus romantique quand même. Hein.
Tu dis quoi, Simonet, toi?
93 minutes, but de Rabiot. Et la Juve se qualifie.
Sacré Simonet.
Mais pourquoi le Real est éliminé, moi, hein? Bah, vous avez déjà joué le match?
Bah oui, c'était ce soir.
Ouais, ça y est, ils ont pris 3-0.
Bah oui, on m'a rien dit.
Bah ouais, ça y est, t'es végétarien.
Pendant une semaine.
T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, maintenant qu'on a fini ces deux matchs virtuels de Ligue des Champions qui devaient normalement se jouer ce soir et qui auraient dû nous régaler, mais qu'on n'a pas joué, puisque donc, vous le savez, ils ne se jouent pas et que donc on les reverra bientôt peut-être. On se retrouve dans quelques instants pour les chapeaux avec Julien Laurence. On lancera ça tous ensemble. Le 32-16 est ouvert évidemment pour participer. La liste est prête. Ça va de Harry Kane à Ludovic Ajorc. C'est énorme. A tout de suite pour les chapeaux.
RMC, 21h30. L'Afterfoot.
I'm Peter Jones. Lifting business performance is critical in today's uncertain times. But how do you keep up with changing regulations and rising demands? How do you break free from manual processes to raise productivity? The answer is technology that elevates performance and comes with industry-leading support. Over 1 million UK businesses, including my investment group, trust Sage to manage their finances, operations and people.
Elevate your business today with our free performance review. Visit sage.com/perform.